Macro, micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine.com.
Jérôme Dédéian, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, on s'intéresse avec vous à l'Asie pour ce nouveau numéro de Macro Micro. Vous nous parlez des perspectives de croissance en Asie pour les épargnants, mais avec les tensions commerciales et le choc pandémique, la question, est-ce bien le moment d'investir en Asie ?
Ben Fabrice, même dans le contexte actuel de pandémie et de sortie de la pandémie, c'est pour nous impossible, pour un épargnant, de se désintéresser de l'Asie émergente, pour trois raisons assez faciles à comprendre. Premièrement, elle représente désormais un poids substantiel dans l'économie globale. Deuxièmement, ses perspectives de croissance sont supérieures à celles du monde dit développé, avec de vrais facteurs de soutien pérennes. Et troisièmement, malgré la pandémie, il y a des facteurs conjoncturels qui ne sont pas si défavorables que ça. Alors sur le poids, c'est assez facile à comprendre. La part de l'Asie émergente dans l'économie mondiale, elle n'a cessé de croître au cours des dernières années. Elle représente aujourd'hui 38% du produit intérieur brut mondial, dont 19% rien que pour la seule Chine, 8% pour l'Inde. Mais il y a plein d'autres pays intéressants dans cette zone, comme par exemple Taïwan, la Corée du Sud ou l'Indonésie. Ce poids, c'est le résultat d'une évolution des dernières décennies vers un meilleur équilibre de l'activité économique entre échange avec l'extérieur et demande intérieure. Le cas de la Chine, qui est la locomotive de la région, il est emblématique de cette évolution. Il y a quelques années, la Chine était un pays dont la richesse provenait essentiellement de son commerce extérieur, avec une structure de commerce extérieur qui était assez typée. Elle avait la structure d'un pays en voie de développement vis-à-vis du monde occidental et celle d'un pays développé vis-à-vis de ses partenaires régionaux. Et on peut dire que le rééquilibrage interne est désormais largement amorcé avec l'émergence d'une classe moyenne aisée qui tire la demande privée à commencer à désensibiliser le pays à son poids dans les échanges internationaux au point de pouvoir commencer à s'appuyer sur sa demande intérieure, même si évidemment elle a encore des liens et des interdépendances très fortes avec le monde extérieur. Donc ça, c'est le poids. Et en plus du poids, il faut, sur cette zone de l'Asie émergente, aborder son potentiel de croissance, puisque même dans le contexte compliquée des derniers mois, elle est supérieure à celle des économies développées, et il y a de puissants facteurs pour ça qui vont perdurer dans les années à venir. D'abord, la croissance démographique. C'est la région qui crée le plus de citoyens mondiaux. On dit que dans la décennie qui vient, il y a 750 millions de nouveaux terriens qui vont arriver. Il y en a plus de 40% qui seront dans cette zone de l'Asie émergente. Et cette croissance démographique est bien supérieure à celle des États-Unis, de l'Europe ou du Japon. Et vous savez que la croissance démographique est un des facteurs qui tire la croissance économique, bien sûr. Et puis par ailleurs, il y a des gains de productivité qui sont permis par l'épargne de plus en plus abondante de cette population et le niveau raisonnable de l'endettement des ménages et des entreprises et de certains États. Donc ça permet le recours au crédit. Et donc c'est l'investissement qui va permettre les gains de productivité. Tout ça, c'est les moteurs de croissance.
Oui, tout à fait. Alors Jérôme, d'accord pour le poids dans l'économie mondiale, pour les soutiens démographiques, les gains de productivité, mais quand on regarde les études de l'OCDE, on marque quand même une perspective de baisse de cette croissance de la zone pour les années à venir par rapport à la période écoulée. Est-ce que cette zone n'est pas en train de décélérer ?
Alors, je vois bien que vous avez bossé, que vous êtes allé voir les études de l'OCDE qui sont passionnantes. Et en effet, ces études anticipent une baisse de la croissance de la zone, et notamment de la croissance chinoise qui en est la locomotive. Mais il faut quand même dire qu'une croissance de 5,7 sur une décennie, 5,7% par an en moyenne, ça reste très très élevé, en tout cas beaucoup plus que la croissance aux États-Unis ou en Europe. Et deuxièmement, que cette baisse relative est aussi la résultante de la tendance que j'expliquais du rééquilibrage vers la consommation intérieure qui va avoir de très belles conséquences sur l'attractivité de certains actifs de la zone. Alors, il y a plein de sujets à régler en Asie émergente, de maîtrise de l'épargne et des systèmes financiers, d'éducation des populations, de formation de la main-d'œuvre au virage numérique, de développement de systèmes de protection sociale et de santé, d'alimentation, d'infrastructures, notamment de transport, de lutte contre la pollution, de sécurité intérieure. Tous ces sujets-là sont devant cette région-là, mais justement, ils vont faire l'objet de très très belles histoires d'investissement à réaliser dans des entreprises de la région.
Alors néanmoins, est-ce qu'à court terme, il n'y a pas des risques liés à la situation pandémique mal maîtrisée, on le voit, comme en Inde, ou des enjeux de tension internationale qui rendent la région risquée pour un investisseur ?
Alors évidemment, ce n'est pas la zone pour un épargnant ou investir qui est la moins volatile. Mais il y a de nombreux facteurs qui militent à court terme pour l'attractivité de la zone. Et c'est en fait la troisième raison, avec son poids dans l'économie et ses perspectives de croissance, pour lesquelles un épargnant doit s'intéresser à l'Asie émergente s'il veut être suffisamment diversifié et en profiter. On ne peut pas tout citer, mais j'en citerai quelques-uns qui sont assez simples. Premièrement, le facteur sanitaire, c'est celui qui nous préoccupe en ce moment. Après un clair retard à l'allumage, les campagnes de vaccination des différents pays de la zone, ça y est, c'est parti. Et donc, comme tout le monde, ils vont finir par sortir par le haut de la pandémie, après avoir acquis l'immunité de la population. La deuxième chose, c'est, encore une fois, la locomotive chinoise. La Chine n'est pas une démocratie, il y a plein de problèmes de droits de l'homme, mais c'est un des pays les mieux gérés au monde, avec une orthodoxie monétaire qui est beaucoup plus forte que celle des États-Unis ou de la zone euro sur le plan budgétaire et monétaire. Et la relance de son industrie a des conséquences extrêmement positives sur ses proches voisins qui lui fournissent des composants. Ça alimentera aussi le restockage des pays qui sont traditionnellement ses clients. Et puis le plan de relance chinois, et ça, ça nous plaît, comprend un volet massif de modernisation du pays, infrastructure, transition énergétique, qui va accroître sa compétitivité. On peut dire aussi qu'il y a récemment eu la signature d'un partenariat économique régional global, le RCEP, c'est ça son acronyme. Cet accord, il harmonise les droits de douane de la zone, il fluidifie le commerce régional et il sera complété par un accord commercial trilatéral entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. C'est un accord de très grande ampleur qui va stimuler le commerce entre les pays asiatiques. Et donc il y aura une croissance intrinsèque à la zone et pas seulement dans ses échanges avec l'extérieur. Et puis le dernier point, c'est le relatif assouplissement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis depuis la signature de l'accord 2020 sous l'administration Trump. Donc tout ça, c'est des facteurs conjoncturels de court terme qui font que ça va peut-être secouer encore un peu en volatilité, mais c'est le moment de profiter des perspectives de l'Asie émergente.
Alors Jérôme, est-ce que vous ne chaussez pas trop vite les lunettes roses? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques macroéconomiques qui pourraient remettre en cause ce scénario optimiste?
Quand j'investis, il y a toujours des risques macroéconomiques, Fabrice. Et donc les risques sur la zone, c'est évidemment un risque de rebond du risque sanitaire, un risque de retour des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, un risque de rebond du dollar, bien que le dollar devrait partir à la baisse à cause des déficits américains qui sont considérables, parce que la dette de ces pays-là est libellée en dollars, donc ça accroîtrait la charge de leur dette. Et puis, c'est des pays qui sont dépendants du pétrole. Ils sont importateurs nets de pétrole. Et donc, si le pétrole s'envole, ça peut pénaliser la croissance chez eux. Mais ces facteurs de risque, aujourd'hui, sont plutôt sous contrôle. Et à court terme, la zone peut réserver de très belles surprises à condition d'être très sélectif.
Alors, sélectif, ça veut dire quoi pour les épargnants qui nous écoutent?
Alors, cette sélection, elle prend plusieurs aspects. Tout d'abord, tous les pays de la zone ne se valent pas. D'accord. On dit que la zone va rebondir à 9,2% de croissance en 2021, après une récession de 1,8% en 2020. Mais il faut évidemment privilégier les pays les plus sûrs, la Chine, Hong Kong, Taïwan, la Corée, le Vietnam, et dans une moindre mesure leurs sous-traitants ou les sous-traitants de la Chine, le Bangladesh, le Cambodge, la Birmanie. Plutôt éviter l'Inde et le Sri Lanka, aux perspectives de rebond encore largement trop incertaines. Sélectif, ça veut dire ensuite qu'il faut jouer les tendances de croissance de fond de ces pays. Et donc il y a deux grandes tendances lourdes. Les tendances de croissance qui sont portées par la transition démographique, donc c'est tout ce qui est acteur de la santé, de la protection sociale, de l'assurance, de la finance personnelle, et évidemment l'éducation, qui est un enjeu massif d'investissement public pour ces pays. Et puis toutes les tendances de croissance portées par la transition numérique et énergétique, donc c'est l'e-commerce, c'est l'énergie propre, les véhicules électriques, les composants électroniques, car ces pays partent de plus loin, mais ils vont peut-être aller beaucoup plus vite que nous dans leur transition. Troisième élément de sélectivité, c'est le moment où on lit le cycle. Mais ça, c'est vrai en ce moment partout dans le monde et sur tous les marchés. En ce moment, les valeurs de croissance et technologiques sont relativement délaissées au profit des valeurs cycliques. On est dans une rotation sectorielle. Et c'est à cause des tensions sur les matières premières et des pressions réglementaires grandissantes sur les acteurs technologiques pour qu'ils normalisent un peu leurs pratiques commerciales. Mais en Asie et particulièrement en Chine, ce mouvement est probablement trop fort. Et en fait, si vous, en plus de jouer la rotation sectorielle, vous continuez à investir ou à parier sur des valeurs de croissance adaptées à ces grandes tendances de transition démographique, numérique, énergétique, et qui ont déjà réalisé leur virage de mise en conformité, vous pouvez faire de très très belles affaires sur les actions de la zone. Et puis, donc le dernier point, c'est évidemment que dans un secteur où vous avez décidé d'investir, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle du stock picking, de la sélection de valeurs très pointues, pour trouver les bons acteurs qui ont leur avantage compétitif durable et qui sont correctement valorisés ou sous-cotés en bourse. Donc évidemment, encore une fois, pas de gestion indicielle ici, mais bien une logique de sélection de valeurs en gestion active.
D'accord pour ce tableau macroéconomique et bien sûr la sélectivité. Concrètement, macro, micro, je suis épargnant. Comment je fais pour m'exposer intelligemment à la zone?
Alors j'ai deux façons de le faire. Une façon traditionnelle, c'est dans des fonds de grande capitalisation qui me sont accessibles comme épargnant européen. Je joue des valeurs globales qui bénéficient de la croissance en Asie. Donc il y a l'archétype de ça, c'est un fonds comme Échiquier Major qui a en portefeuille du LVMH et du L'Oréal, dont les relais de croissance sont notamment sur la zone Asie. Donc quand vous achetez du LVMH ou de L'Oréal, vous profitez de la croissance asiatique, exactement de la même manière que quand vous investissez dans un fonds comme Finaltis Titan, il y a des sociétés en portefeuille comme Alibaba, comme Schneider Electric, BMW, dont l'Asie est tellement importante que pour Schneider, par exemple, ils sont allés jusqu'à mettre leur siège à Hong Kong. Bon, ça, c'est la base. Et donc, d'une certaine façon, quand j'investis en grande capitalisation mondiale, je suis un peu exposé en tant qu'épargnant à la zone Asie. Mais je pense qu'il est temps de le faire avec des véhicules dédiés à la zone et des domaines de spécialité. Et ça tombe bien, puisque l'offre de gestion financière très riche disponible pour les épargnants en France a développé ses savoir-faire et qu'on a maintenant des offres de très bonne qualité. Donc on peut faire confiance à des équipes qui connaissent intimement la zone. Je pourrais citer Ofi RS Ming d'Ofi Asset Management, qui lui est très spécialisé dans les grandes valeurs en Chine. On est vraiment sur des valeurs dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros, dont les volumes quotidiens sont supérieurs à 2 millions d'euros, et qui, et Ofi sait très bien le faire, applique non seulement des filtres financiers, mais aussi des filtres extra-financiers. Vous savez que l'investissement socialement responsable nous tient à cœur. Il y a aussi un blockbuster historique de l'investissement dans la zone, qui est Carmignac Émergent, qui a fait un virage de prise en compte de critères extra-financiers importants. Il est investi en Asie à 80%, et c'est une des plus anciennes et des plus profondes sélections de valeurs. Je vais vous donner des exemples simples. Ils ont récemment pris leur plus-value sur des constructeurs de véhicules électriques chinois, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient beaucoup monté, qu'ils étaient très valorisés. Et ils ont repositionné leur stratégie de développement de la mobilité électrique en allant plutôt chez un fabricant de batteries coréen. Donc ils sont vraiment intimement connaisseurs de la zone et capables d'arbitrer entre des valeurs pour créer de la valeur pour l'épargnant. Et puis je voudrais citer aussi un fonds qui est plus spécialisé dans les small et mid-cap de la zone, IDAM Small Asia, que j'aime bien parce qu'il a une équipe de recherche dédiée, spécialisée en petites et moyennes valeurs, et il faut intervenir sur tous les compartiments de la cote si on veut être diversifié. À titre illustratif, et comme j'aime bien citer des cas, ça leur permet de détecter cette recherche précise et connaissant bien la zone, des pépites locales au cours des cotés. On peut citer Media Nusantara Citra en Indonésie qui va profiter de la reprise du marché de la publicité avec la réouverture, ou TS Tech au Japon, qui fabrique des sièges automobiles et pour motocycles, notamment pour des constructeurs de pays de l'Asie émergente, et idéalement placés pour bénéficier de la reprise. On peut parler aussi de tout ce qui est production de composants électroniques qui sont de plus en plus importants. Et donc, par exemple, une entreprise sélectionnée par IDAM Small Asia, comme Silicon Works en Corée, fabrique des semi-conducteurs avec une technologie propriétaire extraordinairement innovante. Et ils ont un partenariat de long terme avec l'énorme fabricant de devices, de smartphones LG. Et donc, évidemment, ils ont des perspectives de croissance considérables. C'est ce savoir-faire pointu de sélection de valeurs avec connaissance fine de la zone que ces produits permettent d'obtenir pour un épargnant.
Voilà, on investit soit sur les entreprises mondiales qui sont positionnés sur ces segments, soit sur ces gestionnaires qui sont hyper particuliers.
Voilà. Après, compte tenu de la volatilité de la zone, évidemment, pour quelqu'un qui épargne en euros et dépense en euros, et dépensera en euros, il faut essayer de s'exposer de façon limitée à cette zone. Il ne faut pas tout parier là-dessus. Et donc, nous, dans un portefeuille, on dit que 10 à 15% du portefeuille d'épargne financière d'un épargnant, il est raisonnable sur l'Asie émergente.
Perspective de croissance robuste, situation conjoncturelle pas si défavorable si on sait la décrypter, l'existence de savoir-faire concrètement accessible pour les épargnants, on est bien dans l'esprit de cette rubrique macro-micro. Merci Jérôme Dédéan pour cet échange sur le potentiel de l'Asie émergente. Je rappelle que vous êtes le fondateur de monpartenairepatrimoine.com.
Macro-micro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.